Ça va ce matin? Impec. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, membre de cette église, je suis marié à Laetitia, on a 3 enfants, des petits lapins qui sont en bas là, en train de préparer Noël. Et je vais un peu me reculer pour mieux voir. Et je suis un évangéliste, donc comment annoncer la parole, surtout la parole à l'extérieur de l'église. Alors quelle ironie ce matin, parce que la seule prédication que je fais 2 fois maintenant, deux fois cette année, c'est une prédication que je n'ai pas écrite. C'est une prédication qui vient de Mathieu Gérald, de TPSG. Et nous sommes dans ce temps de l'Avent et il est intéressant pour nous finalement de comprendre pourquoi Jésus est venu sur terre. Quelle est la grande histoire que la Bible nous relate? Et du coup, cette prédication, elle vient de Matthieu, je l'ai un peu trafiqué, un peu mis à ma sauce, mais finalement, ce matin, je ne suis qu'un lecteur. Alors du coup, attachez vos ceintures, installez-vous bien, on va embarquer dans une fusée, elle va nous emmener prendre de la hauteur, et nous allons voir de là-haut le plan de Dieu. Nous allons faire de la Genèse à l'Apocalypse, du premier livre au dernier. Vous êtes prêts? Parce qu'une fusée, ça va super vite. C'est parti. C'est mis, David? Mais moi, juste le titre, si tu veux bien. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'avait besoin de rien ni de personne. Mais pour partager son amour infini, pour manifester sa gloire, Dieu crée toute chose. La terre était informe, alors Dieu la façonne. Il fixe des limites, les océans. Il sculpte des montagnes, des ravins. Mais la terre était vide. Alors Dieu la remplit de toutes sortes d'animaux. Des machins qui volent, des trucs bizarres qui rampent, qui nagent, des choses qui marchent comme ça, c'est assez intéressant. Et il met des arbres, des fleurs, des légumes. Et la terre était magnifique, elle était belle. Elle manifestait la gloire de Dieu. Mais Dieu créa une dernière chose qui allait manifester encore plus sa gloire. Plus que tout le reste de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Il créa Adam et Ève. Il les a fait à son image et il les a chargés d'une mission, refléter Dieu et manifester sa présence sur la terre. L'homme et la femme sont appelés à devenir des rois sur cette terre. Ils sont appelés à manifester la souveraineté de Dieu, à gouverner la terre, mais dans la présence de Dieu, et également à être des prêtres. Ils doivent aussi louer Dieu pour sa bienveillance et sa grandeur. En quelque sorte, Adam et Ève doivent être des rois et des prêtres. Leur mission, c'était de se multiplier, de remplir la création de la gloire de Dieu. Et Dieu leur avait dit, vous avez le droit de manger tous les arbres qu'il y a. Il n'y en a qu'un seul dans tout le jardin que vous n'avez pas le droit de toucher. Si vous en mangez, vous mourrez. Mais bientôt le diable, sous la forme d'un serpent, vient les tenter. Il remet en cause la parole de Dieu et il vient semer cette petite graine du doute. Vous savez, cette graine du doute sur la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Non, vous ne mourrez pas. Dieu vous raconte n'importe quoi. Allez-y, goûtez, faites-vous plaisir. Et le couple cède alors à la tentation et mange du fruit qui leur a été défendu. L'homme préfère écouter la parole du serpent que d'écouter la parole de Dieu. L'homme veut être finalement son propre Dieu. Oui, je suis quelqu'un à moi, je n'ai besoin de personne. Et dès les premières pages de la Genèse, nous voyons les conséquences terrible de cette désobéissance. La souffrance et la mort entrent dans le monde et entrent dans la vie humaine. Le péché vient séparer l'homme de Dieu. C'est fini. C'est fini, nous ne pouvons plus accéder au royaume. Nous avons été chassés par notre propre désobéissance. Et la source de vie, c'est Dieu lui-même. Et l'homme est condamné à une mort certaine. C'est même pire que ça. L'homme est déjà mort loin de Dieu. L'homme et la femme cherchent à masquer leur nudité. Ils cherchent à couvrir leur honte en se faisant des habits de feuilles. Mais ça ne masque rien de ton péché. Tu peux tout mettre en œuvre, mais tu ne peux pas l'enlever. C'est trop tard. Notre péché nous colle à la peau. Et nous voyons le premier sacrifice de la Bible. Moi, Dieu, je vais te donner quelque chose qui va vraiment masquer ta honte. Quelque chose qui va couvrir ton péché. Et Dieu prend la peau d'un animal. C'est la première fois, dans la Bible qu'un animal meurt. Il meurt pour couvrir notre faute, notre péché. Et il a fallu que le sang coule d'un animal innocent pour couvrir la faute d'Adam et d'Ève. Et on découvre quelque chose qui va rester dans tout le reste de la création. Pour tenir devant Dieu, pour tenir devant un Dieu saint, nous ne pouvons pas le faire à cause de notre faute, de notre péché. Quelqu'un doit payer le prix. Mais Dieu fait une promesse. Après cette désobéissance, après cette séparation, Dieu fait une promesse merveilleuse. Cette promesse qui va courir tout le long de la Bible. De la descendance de la femme naîtra un homme. Cet homme écrasera le serpent et le vaincra. Il écrasera le mal et vaincra la mort. Et à cause du péché, Dieu chasse l'homme du jardin. Et l'homme se retrouve en exil. Et là, la question qui va servir de fil conducteur pour tout le reste de l'histoire de la Bible, comment on fait pour retourner au jardin près de Dieu ? Qui va nous permettre de retrouver cette relation, cette intimité avec Dieu, de retourner sous son règne, dans son royaume, de retrouver le repos et la communion avec notre Créateur. Mais dès la sortie du jardin, on voit une spirale infernale, une spirale destructrice qui emporte les hommes toujours plus loin dans leur péché. Et je lis dans Genèse 6, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Alors Dieu annonce à Noé la fin de tous les hommes et d'une partie de la création. Les hommes ont rempli la terre de violence alors qu'ils devaient la remplir de la gloire de Dieu. Alors Dieu envoie son jugement contre la création. Il pleut pendant 40 jours et 40 nuits et c'est en quelque sorte un renversement de la création. La division que Dieu avait opérée entre la terre et les eaux n'y est plus et on retourne en arrière. C'est le chaos qui existe avant que le monde ne soit créé. Encore une fois, comme au début, les eaux recouvraient la surface de la terre. C'est un renversement de la création. On recommence. Au milieu de ce jugement, Dieu fait grâce à une famille et à un couple de chaque animal. Et Dieu n'a pas décidé de détruire complètement ce qu'il avait créé. Dieu n'a pas abandonné sa création. Et parmi tous les animaux, il préserve un couple. En sortant de l'arche, Dieu établit son alliance avec Noé. Il redonne son mandat, en quelque sorte. On retrouve un nouvel Adam. Écoutez ce qu'il lui dit. « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Waouh, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, comme un écho à ce que Dieu a dit à Adam. Mais rapidement, on lit que Noé prend le même chemin que Adam. il plante une vigne et il s'enivre. Et on voit une nouvelle spirale qui nous emmène jusque à la tour de Babel. Là encore, une grande ironie que souligne le texte. Les hommes devaient couvrir la terre de la gloire de Dieu, mais ils décident de se rassembler pour leur propre gloire. Ils veulent se faire un nom à eux et ils veulent renverser Dieu. Mais Dieu intervient et va, malgré leur péché, contre eux, les forcer à remplir son mandat et les disperser sur toute la terre avec des langues différentes. Et on voit encore un thème qui revient dans toute l'Écriture. Malgré le péché de l'homme, Dieu le transforme en bien. Réfléchissez bien à ça. Malgré le péché de l'homme, Dieu le transforme en bien. Dieu utilise l'homme même quand celui-ci se rebelle contre lui pour accomplir ses plans. Et pour nous, c'est un grand mystère. Mais c'est un fil conducteur dans toute la Bible. Et dans sa grâce, on voit aussi que Dieu met des limites au péché. Dieu ne permet pas que l'homme aille trop loin. Et on voit dès les premières pages de la Genèse que Dieu est finalement le maître de l'histoire. Les hommes ont voulu se faire un nom, mais Dieu a choisi un homme, Abraham. Et voici ce qu'il lui promet en Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » À partir de ce moment-là, Dieu choisit une famille. La famille pour bénir toute l'humanité. La mission que Dieu avait confiée à Adam, puis à Noé, il la confie maintenant à Abraham pour une promesse. « Je rendrai ta descendance si nombreuse que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne puisse compter les grains de poussière de la terre. » Et Dieu promet également un pays à Abraham et à sa descendance. Il leur dit qu'il veut venir habiter au milieu d'eux. Dieu veut venir régner et habiter au milieu de son peuple. Et on revient à nouveau dans ce royaume perdu. Waouh ! Dieu qui habite avec nous, comme du temps d'Adam. Et Dieu s'engage toujours par une promesse solennelle, à tenir ses promesses. Et lorsque Abraham avait 100 ans, Dieu se souvient de son alliance. Alors quand on lit ça, ok, on se dit, hop, Dieu, il avait peut-être oublié. Non, c'est pas ça. Quand on lit ça, quand on nous dit que Dieu se souvient de son alliance, ça veut dire qu'il accomplit ce qu'il a promis. C'est maintenant que ça se passe. Et la femme d'Abraham, Sarah, enfante son fils Isaac. Et on voit maintenant Dieu accomplir son alliance, cette promesse faite à Abraham. Et Isaac, qui a eu un fils, Jacob. Et Jacob qui sera renommé Israël. Israël, donc Jacob, a 12 fils qui vont devenir les tribus d'Israël. Et parmi ces 12 fils, on lit que Israël a aimé Joseph plus que les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui offrit plus de choses que les autres frères, comme par exemple des tuniques de plusieurs couleurs. Et ses frères sont jaloux. Ils sont jaloux de ce fils que leur père aime plus que eux. Et ils l'abandonnent dans une citerne. Ils veulent le tuer, mais Ruben, l'aîné, s'interpose et finalement, il l'abandonne dans une citerne. Ruben avait prévu de venir le rechercher, mais trop tard, il a été vendu comme esclave. Et il est emmené en Égypte. Et après plusieurs rebondissements, Joseph devient gouverneur d'Égypte. Il devient le numéro 2 de l'Égypte. Il supervise alors les récoltes avant que la famine que Dieu avait annoncée arrive. Et dans la famine, on voit les frères de Joseph descendre en Égypte acheter du blé, mais qui ne le reconnaissent pas. Et finalement, Joseph se dévoile à ses frères et reconnaît la providence de Dieu. Ça veut dire quoi ? Il reconnaît la providence de Dieu ? Vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Par la souffrance de Joseph, Dieu sauve la vie d'un peuple nombreux. Et encore une fois, Dieu transforme le péché de l'homme en bien. La bonté de Dieu malgré le péché. Et à chaque génération, Dieu continue comme ça d'honorer son alliance. Dieu continue d'honorer ses promesses. Les frères de Joseph sont restés en Égypte et on lit que les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. On se rappelle, hein ? Le mandat confié à Adam, puis à Noé, qui devient une promesse à Abraham. Ils furent féconds, se multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Dieu accomplit sa promesse qu'il a faite à Abraham. Et 400 ans plus tard, le nouveau pharaon, qui n'a pas connu Joseph, a peur de ce peuple. Il est trop nombreux et il le réduit en esclavage. Peur qu'il ne prenne le pouvoir. Dans sa cruauté, il va même organiser un génocide. Exterminer ce peuple en ordonnant la mort de tous les garçons juifs. Mais Dieu, as-tu oublié ta promesse ? Tu avais promis de nous rendre nombreux, de nous multiplier et nous rendre aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que le sable sur la mer. Et maintenant, on nous met à mort et on extermine systématiquement tous les premiers-nés. Est-ce que Dieu, tu as échoué ? Mais nous lisons, Dieu entendit les gémissements et se souvient de son alliance, Abraham, qu'il avait conclu avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il va alors appeler un homme qui ne sait pas bien parler. Il a la bouche lourde et la langue pesante, Moïse. Un Hébreu qui a grandi dans la cour du Pharaon, qui a dû partir d'Égypte et qui va être celui qui conduira le peuple, qui va délivrer le peuple de l'esclavage. Il va voir le Pharaon une première fois, mais la visite ne se passe pas aussi bien que prévu. Et Moïse est découragé. Mais Dieu lui rappelle sa promesse en Exode 6. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous serez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous a chargé les Égyptiens. Je ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. Je vous donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Et Dieu va envoyer, du coup, les 10 plaies d'Égypte. Tout ça parce que le Pharaon a refusé de laisser partir le peuple d'Hébreu. Et la 10e plaie la plus horrible, Dieu fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, des enfants jusqu'au bétail. Mais il donne un moyen pour échapper à ce jugement, sacrifier un agneau, couvrir les linteaux de la porte avec son sang. Et encore une fois, un innocent empêche que le jugement s'abatte sur le peuple. Encore une fois, le sang d'un innocent doit couler pour que nous puissions vivre. Le peuple est délivré, il traverse la mer à sec, il est conduit par Dieu, il arrive à pied, au pied d'une montagne, il arrive au pied du mont Sinaï. Là où Dieu a choisi de donner un rendez-vous à son peuple et annonce au peuple maintenant. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples de toute la terre. Vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi un royaume du prêtre et une nation sainte. Waouh ! Un royaume de prêtres ? Des rois et des prêtres, exactement la mission qu'il avait donnée à Adam à la création. Dieu veut se constituer un peuple qui lui appartient, qui le représente sur terre, qui manifeste sa souveraineté, qui manifeste sa bonté et sa bénédiction aux autres peuples. Et Dieu donne à cet endroit-là des lois qui montrent comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. et qui appelle le peuple à avoir une vie entière consacrée à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Et par son par votre obéissance, Israélite, vous deviendrez des témoignages de la présence même de Dieu au milieu de vous, aux yeux des autres nations. Ouh ! C'est pas la même chose pour nous, ça ? Nous sommes, par notre obéissance à Dieu, une manifestation de la présence de Dieu sur terre. Dieu fait également construire une tente, le tabernacle, qui doit manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et un an après la sortie du peuple d'Égypte, le tabernacle est dressé. Et je lis en Exode 40, « La nuée recouvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De la même manière que la gloire de l'Éternel remplissait la terre entière. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle avec le peuple autour. Ça y est, enfin, on a retrouvé ce royaume perdu. Dieu au milieu de nous, au milieu de son peuple. Waouh, on a retrouvé ce royaume. C'est la fin de l'histoire. Non, pas encore. Pas encore. Depuis le départ de l'Égypte, le peuple murmure. Le peuple se plaint du leadership que Dieu a donné à Moïse et à Aaron. Et finalement, c'est Dieu lui-même que le peuple rejette. Et on recommence encore et encore à nous mettre à la première place. Et la goutte qui va faire déborder le vase, c'est quand il envoie les 12 espions, un espion par tribu, pour aller explorer le pays dans lequel ils sont en train de se rendre, pour regarder à quoi ressemble ce pays. Et quand les 12 espions en reviennent, il y en a 10 sur 12 qui découragent le peuple. « Non, on ne peut pas y aller. Ils sont trop grands, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. On n'y arrivera jamais. » Il y en a 2 seulement qui disent « Allons-y, montons là-bas et prenons le pays, nous aurons la victoire. » Mais Dieu se met en colère et punit l'incrédulité du peuple qui se range parmi les 10 espions. Et le voyage qui devait durer un mois dure 40 ans. Et après la mort de Moïse, Dieu charge le successeur de Moïse, Josué, pour conduire le peuple dans le pays promis. Le peuple est à la porte du pays. Toutes les générations qui étaient sorties d'Égypte et qui murmuraient étaient mortes. Dans cette seconde génération qui s'apprête à rentrer dans le pays promis, ce peuple va traverser le Jourdain à sec, de la même manière que leur père avait traversé la mer à sec. Il y a eu de grandes batailles, notamment celle pour conquérir la ville de Jéricho, une bataille bizarre, où Dieu donne des instructions précises, où le peuple n'a même pas à combattre. Il a juste à obéir à Dieu. Il a juste à faire à ce que Dieu lui demande. Et ça, c'est un début pour montrer au peuple qu'il suffit juste d'obéir à Dieu. Le peuple s'empare des villes petit à petit. Et à la fin du livre, le peuple est installé dans le pays et Dieu leur accorde du repos. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Mais à la fin du livre de Josué, Josué meurt et Josué n'a pas de successeur. Et on se demande, mais qui va conduire ce peuple maintenant. C'est une nouvelle génération qui arrive, une génération qui n'a pas connu Dieu. Et cette génération se met à adorer les idoles. Et la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Et c'est la spirale du péché. La même spirale se répète. Et le peuple se rebelle et Dieu lui envoie des ennemis pour le punir. Le peuple se repent et Dieu alors le délivre. Et puis rebelote, on recommence encore, encore et encore. Mais on voit que c'est là encore une spirale et que c'est la que cette situation dégénère de pire en pire et qu'à la fin du livre des juges, il y a une guerre fratricide. Le peuple se déchire lui-même entre lui. Et on voit que finalement, c'est l'échec. Ces libérateurs, ces juges n'arrivent pas à donner le repos au peuple. Alors, le peuple demande un roi. On veut un roi. Mais Dieu avait été clair. Le peuple demande un roi, mais voilà. Le roi d'Israël ne doit pas ressembler aux autres rois des autres nations. Il ne doit pas avoir une grande force armée. Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Il ne doit pas chercher à avoir de la richesse. En résumé, le roi que vous aurez ne doit pas chercher sa propre gloire, mais ma gloire. La chose primordiale qui était demandée au roi, c'était de rester attaché à la parole de Dieu. Et on voit depuis le début de la création, Dieu règne avec sa parole. C'est à travers sa parole qu'il crée le monde. C'est sa parole qu'il ordonne la vie. Dieu règne par sa parole. Le but de ce roi, c'est d'être un exemple de soumission pour conduire le peuple. Il doit être un serviteur. Mais on voit que le premier roi, Saül, un roi grand, fort, c'était un beau gosse, il était prometteur à première vue. Mais malheureusement, il va désobéir à la parole de Dieu. Il va rester roi, mais finalement, son règne va décliner. Et après, c'est David. Mais c'est David qui va reprendre ça. Et on nous dit que David, c'était aussi un beau gosse, mais lui, c'était un gringalet, par contre. Un homme qu'on n'aurait pas du tout choisi pour être notre roi. Pas du tout l'image qu'on a pour un roi. Et pourtant, c'est Dieu qui le choisit. David obéit à Dieu et finalement, Dieu donne du repos au peuple. Et Dieu le délivre de ses ennemis et à la fin de sa vie, David veut construire la maison de l'Éternel. David a ramené l'arche à Jérusalem, cette arche de l'Alliance qui était au milieu de la tente du tabernacle, quand ils étaient encore dans le désert et qui tournaient en rond. Maintenant qu'ils sont installés, qu'il y a la paix, qu'il y a le repos, David veut construire un temple à Dieu. Mais Dieu lui répond, ce n'est pas toi qui me feras une maison, c'est moi qui te ferai une maison, c'est-à-dire une descendance. Le fils de David, Salomon, devient roi à sa suite. Salomon aime Dieu et Dieu lui accorde ce qu'il a demandé. Il lui accorde la sagesse telle qu'on n'en avait jamais vu et telle qu'on n'en verra jamais. Mais en plus de cela, Dieu lui donne ce qu'il n'a pas demandé, la richesse et la gloire. Et c'est Salomon qui va construire le temple que David voulait construire. Et la gloire de Dieu, de la même manière qu'elle était venue remplir le tabernacle, la gloire de Dieu vient remplir le temple. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Le peuple connaît le repos et l'harmonie, et on lit « Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient, se réjouissaient. Enfin, la promesse est accomplie. Nous avons retrouvé ce royaume perdu. C'est la fin de l'histoire. Dieu est au milieu de nous. » Non, pas encore. Pas encore. On voit que Salomon ne va pas respecter la parole de Dieu. Et Dieu va arracher la royauté à son fils. Et après la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux. Et le royaume du nord avec le royaume du sud. Et là encore, c'est la dégringolade. Et c'est une spirale. Et on voit que les rois s'enchaînent. Et on lit que certains sont bons, mais malheureusement, beaucoup sont mauvais. Et c'est tellement grave que finalement, le royaume du nord finit par être déporté chez les Assyriens en -722. Et que le royaume du sud n'est pas mieux, ne fait pas meilleur, parce qu'eux, ils seront déportés par Babylone. En -597, le temple est rasé et il ne reste plus grand-chose. Et pendant cette période d'exil, le peuple se demande « Mais qu'est-il des promesses que Dieu nous a faites ? L'Éternel nous a-t-il abandonnés après nous avoir multipliés comme le sable sur la mer, après nous avoir donné le repos, pour nous avoir donné la paix, après nous avoir bénis ? Nous sommes déportés. » Que fait l'Éternel ? L'Éternel a-t-il oublié ses alliances par lesquelles il s'est engagé solennellement envers nous ? Est-ce que Dieu, tu as échoué ? Et c'est dans ce contexte que le ministère des prophètes va se développer. Ces prophètes, justement, qui rappellent les promesses de Dieu et qui annonce de nouvelles promesses. Par exemple, les promesses annoncent une alliance nouvelle, une alliance qui n'est pas comme les autres, une alliance où Dieu va inscrire directement sa loi sur le cœur. Une alliance où Dieu viendra purifier le peuple de son péché, lui donner un cœur nouveau. Les prophètes annoncent aussi un roi nouveau, un roi dont le règne n'aura pas de fin. Ce roi qui va rassembler son peuple comme un berger rassemble son troupeau. Mais ce roi est très énigmatique. Il est aussi décrié comme un serviteur. C'est parce que Dieu voulait comme roi qu'il soit un serviteur. Un serviteur qui a été choisi, aimé par Dieu. Un serviteur qui est l'espoir des nations. Un homme qui est méprisé, mais qui devant les rois, mais qui les autres rois devant se prosternent devant lui. Un homme qui purifie un nouveau peuple. Un homme qui meurt à la place des méchants. Les prophètes annoncent également une restauration cosmique. Dieu annonce par la bouche d'Ésaïe, « Je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voici ce qui fonde l'espoir du peuple pendant son exil, alors qu'il est loin du pays promis, alors qu'il est loin du temple. Et comme Dieu l'avait annoncé des centaines d'années auparavant, Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Cyrus était le roi des Perses et il avait vaincu les Babyloniens et Cyrus permet à tous ceux qui le veulent de rentrer chez eux. Il y a seulement une minorité du peuple juif qui revient dans le pays. Et il y en a beaucoup des juifs qui s'installent autour du bassin méditerranéen. C'est pour ça qu'on voit dans les Actes des apôtres les juifs qui reviennent comme ça sur Jérusalem. Mais une partie du peuple revient dans le pays. Mais là encore, on est sous la domination de colons. Le pays est encore asservi, d'abord par les Perses, puis par les Romains. Il y a toujours cette soumission à des ennemis païens. Et là encore se pose la question, comment on vit la promesse de Dieu quand on est sous la domination de païens cruels ? Et là, on est dans cet entre-deux, entre les deux testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une attente du Messie, c'est-à-dire du roi que Dieu avait promis, du roi que Dieu avait promis pour conclure une nouvelle alliance, pour purifier le peuple, pour débarrasser le pays de ses ennemis, qui allait faire que Dieu vienne régner sur son peuple et habiter au milieu de lui pour toujours. Cette attente-là qui naît dans cet entre deux testaments. Et puis 400 ans plus tard, la naissance de Jésus. Elle est annoncée, elle est décriée comme justement l'accomplissement des prophètes. Ces promesses qui étaient autrefois faites par les prophètes, Jésus qui vient, le Seigneur. On attend ce Messie, le roi qui avait été annoncé, le roi promis par Dieu pour délivrer son peuple. Le roi dont le règne n'aura pas de fin, ce roi dont le spectre écrasera les ennemis de Dieu. Jésus est le nouvel Adam, le vrai Fils de Dieu qui obéit parfaitement à Dieu, là où Adam a échoué. Jésus accomplit les promesses faites à Abraham. Il est la lumière de toutes les nations. Jésus est le berger, le Messie, celui qui rassemble son peuple dispersé. Jésus annonce « Le royaume de Dieu est proche. Le roi est enfin arrivé. » Et c'est ce qui confirme à travers les miracles. Ces miracles, quand Jésus fait des miracles dans la Bible, c'est pour souligner l'arrivée du royaume. C'est pour souligner l'accomplissement des prophéties. Ésaïe dit que les aveugles recouvreront la vue, les sourds entendront, les boiteux marcheront et sauteront. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et les miracles aussi montrent la puissance de Dieu qui vient rétablir ce que le péché a tordu. Les miracles, finalement, c'est aussi un avant-goût, une espèce de fenêtre pour voir cette nouvelle création, cette nouvelle terre restaurée que Dieu a promis sans péché. Mais alors qu'il est suivi par de nombreuses foules, Jésus est rejeté par les chefs religieux. Il est accusé de blasphème, il est accusé à tort et finit par être exécuté comme un criminel. Lui qui est innocent, lui qui n'a jamais péché. Voilà la plus grosse ironie de toute la Bible. Par la plus grande injustice jamais commise, Dieu accomplit sa justice. Je répète. Par la plus grande injustice commise, le seul qui n'a jamais péché, Dieu accomplit sa justice. Par la mort de Jésus, Dieu vient délivrer son peuple. Jésus est sacrifié comme un agneau, comme à la Pâque, à la sortie d'Égypte, comme le premier animal qui couvre le péché d'Adam. Jésus meurt à la place de son peuple. Le sang est versé pour couvrir le péché, le peuple du péché. Mais on lit que la mort ne pouvait pas le retenir. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le juste est revenu à la vie. Le juste est ressuscité. Celui qui n'a point de péché, la mort n'avait rien contre lui. Et 3 jours après, comme lui-même l'avait annoncé, Jésus revient à la vie, victorieux sur la mort et sur le péché. Et Jésus est venu semer la graine. Vous vous souvenez, tout au début, Satan qui sème la graine du doute, et bien ici Jésus sème la graine du royaume. Mais elle doit pousser cette graine, le royaume. Et comme cette petite graine qui deviendra un énorme arbre, cette graine doit pousser, ce sont des disciples qui doivent continuer à la semer. Et avant de repartir auprès du Père, Jésus envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle, être des témoins, vous et moi. La mission est donnée avec cette assurance que Jésus a la puissance dans le ciel et sur la terre et qu'il est présent tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Nous allons proclamer l'Évangile motivé par la puissance et par la présence de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Et Jésus leur confie une mission. Cette mission, elle n'est pas sans rappeler celle que Dieu avait donnée à Adam. Se multiplier et remplir la terre d'un peuple d'ambassadeurs de Dieu. Le but est toujours le même, de remplir la création d'un peuple d'adorateurs de Dieu, des prêtres. Le livre des Actes nous raconte le début de l'Église, cette communauté qui reconnaît Jésus comme Seigneur, cette communauté qui vit avec Jésus comme roi et qui veulent être des ambassadeurs de son règne et sa bénédiction sur terre. Et le témoignage des disciples commence à Jérusalem et le ministère des disciples ressemble à celui de Jésus finalement. Ils annoncent que Jésus est le Seigneur, qu'il est Dieu et leur témoignage est attesté par les miracles. Comme Jésus, Dieu manifeste sa présence et sa puissance par l'Église, dans l'Église et par cette Église qui brille au milieu des ténèbres, aujourd'hui encore. Mais rapidement, on voit que ceux qui ont fait mourir Jésus, qui cherchent à faire mourir les disciples et étouffer cette Église. Et très vite, dans l'histoire de l'Église, Étienne, le premier martyr, meurt. Et on a l'Église qui se disperse. L'Évangile se répand et encore une fois, le péché des hommes accomplit le plan de Dieu. Vous vous rappelez la tour de Babel où Dieu avait dispersé les hommes et finalement, ils avaient fini par couvrir la terre. C'est exactement ce qui se passe. L'Église est dispersée à cause de la persécution. Et c'est l'Évangile qui se répand. Et au lieu de stopper l'Évangile, eh ben, la diffusion de l'Évangile, la persécution va l'accélérer. Et rapidement, les premiers non-juifs qui se convertissent et qui sont ajoutés au nouveau peuple de Dieu. Mais peut-être l'événement le plus marquant dans le livre des Actes, c'est la conversion de Paul, ce chef religieux qui persécutait l'Église. Il est terrassé par Dieu qui le convertit. Il devient alors un missionnaire qui va apporter l'Évangile en Asie mineure jusqu'à Rome. Et le livre des Actes, finalement, c'est l'histoire de Jésus, le bon berger, qui rassemble son troupeau par sa parole, par la prédication à travers ses apôtres. Ce temps de l'Église continue jusqu'à aujourd'hui, où nous continuons d'annoncer que le roi est venu pour sauver et qu'il reviendra pour juger. L'Église est un peuple d'ambassadeurs de Dieu qui, par leur témoignage, témoignent que Jésus est roi. L'Évangile est la bonne nouvelle que Jésus est roi, le seul homme qui pouvait être un roi parfait. Un jour, la Bible nous dit « le roi reviendra pour régner pour toujours ». Voilà notre espérance. Jésus est venu dans l'humilité et il reviendra dans la gloire. Et son retour marquera son règne pour tout le monde, qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas. Et son retour nous permettra, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, d'être avec lui. Enfin, le plan de Dieu sera parfaitement accompli. Tous les hommes ressusciteront, les uns pour la gloire, les autres pour la ruine éternelle loin de Dieu. Dieu jugera chacun selon ses actes, mais ceux qui se sont placés sous la protection de Jésus, sous son sang qu'il a versé, ceux qui ont foi en Jésus, qui n'ont rien à craindre, car la condamnation ne pèse plus sur eux. L'agneau est mort à leur place. Et c'est avec ce tableau que se termine la Bible. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par la bouche d'Ésaïe. Et je vous lis les premiers versets d'Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son épouse. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Il habitera avec eux. Il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Enfin s'accomplit cette restauration cosmique que Dieu avait prévue. Enfin s'accomplira ce règne parfait que Dieu a mis de Dieu au milieu de son peuple. Enfin s'accomplira le repos retrouvé. Comment on retrouve ce royaume? C'était notre question du départ. Non, la question n'est pas bonne. C'est plutôt qui nous redonne ce royaume? Il n'y a pas plus grand roi et prêtre qui existe sur cette terre pour nous faire entrer dans ce royaume que Jésus. Voici la fin de l'histoire, cette histoire sans fin. Et je voudrais prier encore, mais je voudrais prier Zacharie 6 avec vous. C'est un texte qui a été écrit plus de 500 ans avant que Jésus naisse. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe. Et sous ses pas, tout germera. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. La couronne sera conservée dans le temple de l'Éternel. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction de l'Éternel, du temple de l'Éternel. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et ce temple, dans Zacharie 6, finalement, c'est notre corps. Ce temple où Dieu veut venir habiter en nous.